Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un show devant sophrologie avec Aude Desclair.
Bonjour à tous.
Bonjour Grégor.
Bonjour.
Et bonjour Aude.
Bonjour.
On s'était vu, t'étais venu dans le studio pour nous parler cinéma. On avait passé un excellent moment avec toi sur Prodigieuse.
Oui, tout à fait.
Et je t'avais dit, tu nous avais parlé, tu avais dit que t'étais sophrologue. Et je t'ai, qu'est-ce que je t'avais dit ? Qu'on ferait une émission sur la sophrologie ?
Eh oui, et on est là aujourd'hui.
C'est ça. Alors, dis-moi, d'où ça vient cette envie d'être sophrologue ?
Alors, quand j'étais adolescente, j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse. Donc j'ai passé beaucoup de temps avec des psychologues, avec des médecins, à l'hôpital également, sous anxiolytiques. C'était pas forcément très cool comme expérience, surtout à la période de l'adolescence où on se construit et quand on croit qu'on a un problème et quand on entend surtout des médecins dire mais en fait il n'y a pas de problème, c'est dans sa tête. On a l'impression d'être un petit peu folle et donc j'ai rencontré une sophrologue qui a littéralement changé ma vie. Et elle m'a appris à gérer mon stress, mes émotions, mon hypersensibilité également. Et je me suis dit, mais c'est génial. Et je veux transmettre ça, je veux apprendre ça. Et donc, je me suis dit, allez, je pars en école de psychologie, donc en faculté de psycho. J'ai obtenu ma licence et ensuite, je suis partie 2 ans en école de sophrologie à Lyon. Et voilà, aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'il y a comme cours ? Comment c'est distillé ? Parce que comme tu es passé par la psychologie, est-ce qu'il faut d'abord être psychologue pour être sophrologue ?
Alors, très important, je ne suis pas psychologue.
Non, parce je veux dire que... les premiers cours, en fait.
Oui. Alors, on n'est pas obligé d'avoir eu un cursus orienté sur la psychologie, sur la thérapie ou même la sociologie. On a des personnes qui vont en école de sophrologie pour se réorienter professionnellement. Donc, peu importe en fait d'où on vient, tout ce qui compte, c'est de savoir se passionner sur un sujet. Et c'est surtout de prendre le temps de comprendre l'humain. Et c'est ça qui est très important, parce que quand on est sophrologue, on travaille avec des humains. Donc, avoir la science infuse sur tout ce qui est psycho, c'est bien. Mais si on n'est pas à l'écoute des personnes qu'on accompagne, bah ça ne vaut pas grand-chose, mine de rien. Et donc, pendant l'école, nous avons plein de choses complètement différentes. Donc, on a évidemment de la théorie pour parler de tout ce qui est donc sophrologie, d'où vient la sophrologie, Alfonso Caicedo, donc le créateur de la sophrologie. Puis ensuite, on va diviser les parties. Donc, on va parler de psychopathologie. Par exemple, on va également parler de gérer ses émotions, gérer son stress. Dans la sophrologie, il y a beaucoup de choses. Donc, on peut parler tant des émotions que de psychologie ou encore de PNL ou même de MDR, enfin, de techniques qui allient à la fois le corps, l'esprit, mais également une partie très physique, psycho. Et enfin, on a la dernière partie qui est l'aspect pratique. Parce que forcément, vu qu'on va pratiquer sur des personnes, on pratique entre nous à l'école.
Et ah oui, vous faites...
Ouais, c'est ça, on partage nos
chacun
pratiques.
Chacun se met à parler...
Chacun pratique sur les autres.
Ça, c'est impressionnant.
Et au début, c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas vraiment comment poser notre voix, on ne sait pas vraiment quoi dire. Évidemment, on a toujours les cours qui nous permettent de nous guider et d'avoir une trame, donc d'avoir au moins un script pour nous aider. Mais moi, j'ai fait partie d'une école où la directrice de l'école voulait qu'on imagine au maximum nos séances. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une trame avec vraiment un script, en fait, comme dans un film ou comme pour un acteur ou quoi que ce soit, il était très important pour elle qu'on ait que des mots-clés et qu'on constitue notre personnalité dans nos visualisations ou dans la réalisation des exercices. Et ça, je pense que je la remercierai jamais assez parce que c'était l'avantage de notre école. Parce qu'on a su chacune et chacun à développer notre style en tant que sophrologue, en tant que thérapeute. Et il y a d'autres écoles où, pour le coup, ils font que du par cœur. Et donc, quand ils sont lancés dans le grand bain, c'est très compliqué pour eux.
Alors, comment tu exerces? Comment ça se passe? Est-ce que tu reçois dans un cabinet? Est-ce que tu parles aux gens par téléphone? Est-ce que tu les as en face à face? Comment tu procèdes?
Alors, pour ma part, je n'ai pas encore de cabinet parce que je débute. Mais à l'avenir, ça serait génial d'avoir un cabinet, évidemment. Pour l'instant, je fais des rendez-vous en visio. Donc, il y a d'abord un premier entretien où, ensemble, avec la personne, on va déterminer ses besoins. On va aussi parler de tout ce qu'il a pu ou elle a pu avoir dans sa vie, donc les thérapies qu'il a pu pratiquer. Que ce soit, est-ce qu'il a vu un médecin, un psychologue, est-ce qu'il y a des diagnostics particuliers à savoir, est-ce qu'il y a des troubles ou quoi que ce soit qui puissent avoir une influence sur la suite du déroulé des séances. Et ensuite, après ce premier entretien, à la fin, on détermine vraiment le besoin premier de la personne. Et ensuite, globalement, les séances de sophrologie, ça va entre 5 à 10 séances. C'est une thérapie brève, c'est très important. On est là en tant qu'outil, en fait. La sophrologie, le but, c'est vraiment de donner un maximum d'outils à la personne pour qu'ensuite, elle puisse reprendre ces outils et les mettre en place dans sa vie quotidienne et sans avoir besoin de nous. Et c'est là où c'est très différent de la psychologie ou même d'aller voir un hypnothérapeute ou de faire même de la méditation. C'est que souvent, on a besoin d'être guidé. Nous, on donne tous les outils. Et ensuite, on fait, comme je dis souvent aux personnes que j'accompagne, on fait 50-50. Moi, je donne les outils, je transmets et ensuite, le reste du travail, c'est la personne qui le fait.
Et c'est un travail personnel de sa part, 50-50 pour toi, quoi. Okay.
Tout à fait. Et c'est très, très important que la personne soit impliquée aussi dans son objectif. Parce que, bon, alors, souvent, il n'y a pas de problème. Ils sont tous très impliqués. À partir du moment où ils ont fait la démarche d'aller voir quelqu'un, forcément, ils sont impliqués dans leur guérison, ou en tout cas dans la volonté d'aller mieux et d'atteindre surtout les objectifs.
Est-ce qu'il y a un âge? Est-ce que c'est ado-adulte? Est-ce que c'est enfant? Est-ce que tu prends tous les âges ou est-ce que tu es restreint?
Alors, pour pratiquer la sophrologie, techniquement, il n'y a pas d'âge. C'est-à-dire qu'une personne peut aller voir un sophrologue tout au long de sa vie. Moi, j'ai fait le choix d'accompagner principalement les jeunes adultes et les adultes parce que la communication avec les enfants, pour ma part, c'est quelque chose qui est très compliqué, mais c'est facile de trouver des sophrologues qui sont spécialisés dans la prise en charge des enfants. Et c'est passionnant, d'ailleurs, la prise en charge des enfants parce qu'il y a tout ce qui est TDAH ou alors les troubles du spectre autistique ou même simplement comprendre l'enfant, qui sache exprimer ses émotions, laisser la place à plein de choses. Donc c'est passionnant, mais pour ma part, j'ai décidé de ne pas me spécialiser là-dedans parce que les enfants, je les aime bien, mais de loin.
Donc jeune adulte, à partir de quel âge? 16 ans? Non.
Ouais, c'est ça. Globalement, j'ai eu des ados déjà. Et puis là, actuellement, j'ai beaucoup plus de jeunes adultes. Donc, quand je dis jeune adulte, on va dire d'adultes, entre 20 et 30 ans en moyenne. Et puis après, j'ai de tout. J'ai des sportifs, j'en ai qui souhaitent être accompagnés pour gérer leurs émotions, d'autres pour gérer leur stress, d'autres pour apprendre à avoir confiance en eux. Ça dépend vraiment de chacun.
Wow. Est-ce que quand tu les reçois, est-ce qu'il y en a qui n'arrivent pas à se confier? Est-ce que tu as des façons, des clés pour arriver justement à mettre cette confiance? Comme nous, par exemple, en journalisme, on les voit, ils sont croisés, ils sont là, ils sont fermés, et puis on arrive avec une phrase ou avec quelque chose à débloquer et ils arrivent à se livrer. Est-ce que toi, c'est pareil ou pas?
Alors, Il y a une petite partie où souvent on attire ce que l'on est, donc souvent les personnes se confient d'eux-mêmes. Si j'ai une personne qui ne se confie pas, ça peut arriver, on n'est pas psychologue, vraiment c'est très important, on ne force pas. Et parfois il y a des personnes qui ont juste besoin de silence, et donc on laisse la place au silence. Et des fois, quand j'ai des personnes qui ne veulent pas se confier, je leur dis que ben, ce n'est pas grave, c'est OK. Ils ont le droit de ne pas vouloir se confier, ils ont le droit de ne pas vouloir être dans l'analyse, etc. Parce que de toute façon, ce n'est pas mon rôle. Si j'ai des personnes qui veulent se confier, j'accueille, évidemment. Je donne des conseils, je les accompagne. Et s'il y en a qui ne veulent pas, ben, ce n'est pas grave. Et mais globalement, ça se fait tout seul. Souvent, ils se confient d'eux-mêmes parce que l'alliance thérapeutique se crée naturellement. En fait.
Il y a une confiance qui naît.
C'est ça. Et puis après, il y a le fait que je tutoie les personnes que j'accompagne parce que ça brise certaines barrières. Je ne suis pas le savant, je ne suis pas le professeur qui apporte les réponses à tout. Bien au contraire, j'apprends des personnes que j'ai en face de moi et ils apprennent de moi, c'est donnant-donnant. J'ai pas envie qu'il y ait une espèce de marche qui est faite entre les personnes que j'accompagne et moi. Je préfère qu'on soit sur un pied d'égalité. Et donc je rigole avec les personnes que j'accompagne. Parfois, mon hypersensibilité réapparaît et donc je peux faire preuve de beaucoup de compassion et même, des fois, je me contrôle, évidemment, mais j'ai des petites larmes qui peuvent couler, que discrètement, je retire du coin de l'œil parce que c'est un échange.
C'est prenant, oui.
C'est très prenant. Et justement, c'est ce que j'aime dans la sophrologie, c'est que c'est vraiment un échange. C'est vraiment une relation thérapeutique, une alliance entre deux personnes qui sont complètement différentes, qui ont sûrement des objectifs différents, mais qui, pour le coup, il y a une évolution, en fait. Et c'est ça qui est beau et c'est ça que j'adore.
Tu fais, t'as un Instagram et tu fais des podcasts.
Oui.
Il y a un réseau bien fourni. Je suis Instagram, je regarde ce que tu fais.
Merci.
Et il y a cette voix toujours posée, cette façon. Et même ce côté, tu viens de le dire, avec beaucoup d'humour. Tu essayes d'amener des choses et de donner un côté très convivial, très familial et en même temps intimiste.
C'est vrai que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que pour avoir vu des sophrologues, des psychologues, etc., il y a ce côté un petit peu... la neutralité donne un effet un peu froid dans le coup. Et j'ai pas envie que les personnes que j'accompagne se sentent mal à l'aise. Et donc, c'est vrai que je fais des blagues. Enfin, y a des petits moments de transition parce que forcément, en visio, je vais montrer des exercices... dynamique, donc il va y avoir des phases où je suis obligée de passer debout, assis, etc. Donc il y a toujours ce moment un petit peu gênant où je dois bouger le micro, où ma tête est coupée, donc je recadre, etc. Et donc je fais des blagues sur ça. J'essaie de le remettre dans mes réels. C'est assez compliqué parce que forcément, c'est pas joué, mais en tout cas, c'est plus préparé, c'est moins spontané. Et j'essaie de laisser ressortir cette spontanéité sur mon compte Instagram ou même dans mes podcasts. Et c'est ce que j'aime bien en fait, c'est que du coup les personnes viennent en fonction de ma personnalité, de ce que je dégage, etc. Et pour la voix, alors ça c'est assez drôle, parce qu'au début quand j'ai commencé la sophrologie en école, j'avais pas du tout une voix posée, calme, qui accompagnait pour la descente.
Sens,
il y avait mon petit côté un peu...
Ouais. Un peu...
très active, qui ressortait dans les...
Un peu boule d'énergie, pétillance.
C'est ça, exactement. Et donc, j'ai dû apprendre à poser ma voix. Et c'était génial. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je la pose naturellement. Et j'adore, en fait, poser ma voix et embarquer la personne avec moi dans un univers, que ce soit imaginaire pour la personne ou même... parfois, même quand je fais des séances aux personnes que j'accompagne, je ferme les yeux et je m'embarque moi-même. Je fais de la sophrologie à moi-même. Voilà.
Tu te fais du bien aussi à toi.
Exactement. Non, franchement, c'est...
En faisant aux autres.
Exactement. Et c'est vraiment génial aussi, c'est que quand je fais mon travail, c'est que je ne suis pas stressée. Je suis au contraire très déstressée, très zen, ce qui laisse apparaître naturellement le naturel, l'authentique, ce que je suis. Donc ça, c'est top.
Est-ce que tu aurais des conseils ? Est-ce que tu aurais des choses à dire aux personnes justement qui se sentent un peu, qui se disent « Ah là là, j'aimerais bien consulter » ou « J'aimerais bien avoir des avis ou des choses pour m'aider et j'ose pas » Est-ce que toi, tu pourrais voilà, leur donner une idée, quelque chose ?
Alors déjà, ce qui est très important, c'est que si les personnes se posent autant de questions, déjà, il n'y a pas de honte à se faire accompagner. Il n'y a pas de honte à aller voir un psychologue ou à se faire accompagner ou à essayer des médiations thérapeutiques, etc. Au contraire, le bien-être, ça fait partie de notre vie, en fait. La santé mentale, c'est très, très, très important. Et il y a certains milieux où c'est minimisé et on s'en rend compte trop tard ou malheureusement pas du tout même. Et pour ces personnes qui sont un peu dans le doute de qu'est-ce que je pourrais faire, etc. Déjà, on est constamment dans une société où il faut tout faire vite, être constamment occupé, avoir toujours des choses à faire et on a le droit de ne rien faire. On a le droit de se poser dans le canapé et d'être sur son téléphone ou même juste de rien faire, se poser dans son canapé, d'être assis, dans le silence, dans le calme, c'est ok. On n'est pas obligé d'être constamment avec des stimulations, que ce soit sur le téléphone, que ce soit la télé, s'occuper des enfants, ou même faire la cuisine, aller faire une activité, etc. Ralentissez le rythme. On a le droit de ralentir. Et justement, ça va faire du bien, en fait, d'apprendre à ralentir le rythme, parce que ça baisse le niveau de cortisol, ça baisse le niveau de stress, et faire des choses qu'on aime, surtout. Savoir prendre du temps pour soi, c'est essentiel. Savoir prendre du temps pour faire des activités qu'on aime, sortir se promener, se ressourcer, que ce soit avec ses amis, avec sa famille, ou même juste lire un livre. Juste prendre le temps, c'est quelque chose qu'on ne fait plus beaucoup aujourd'hui. Ou alors, on a tendance à dire « j'ai pas le temps ». Ça revient beaucoup, même avec les personnes que j'accompagne. C'est pas qu'on n'a pas le temps. Le temps, on l'a toujours. C'est qu'on prend pas le temps pour soi. Et c'est ça la différence. Donc, prenez le temps. Si j'ai vraiment un conseil à donner, c'est prenez le temps de prendre soin de vous, en fait.
Merci beaucoup. Merci pour ces conseils et merci d'être venue à la radio.
Merci à toi de m'avoir invitée. C'est un vrai plaisir d'être là.
Et puis qui sait, peut-être qu'un jour on aura une émission sophrologie avec Aude Desclercs.
Peut-être. Ça serait fantastique. On verra la suite. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invitée et d'avoir mis en lumière mon métier qui est de plus en plus connu, mais qui reste un petit peu dans l'inconnu quand même.
C'était Chaud Devant, sophrologie, avec Aude Desclercs. Merci beaucoup, Aude.
Merci à toi, Vanessa.
Et puis, on se retrouve prochainement.
Oui, très prochainement.
Pour un autre volet de sophrologie, qui sait ?
Avec grand plaisir. So, you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black. So if you want me off your back, well come on and let me know.